Chapitre 5. Grâce au contact de Patrick Mulligan, Agatha apprit que ce soir-là, Bill finissait sa journée de travail à 7 heures. Elle avait faim et s'arrêta dans un café-restaurant qui servait des petits-déjeuners toute la journée et fit un sort à une copieuse assiette d'œufs au bacon, de saucisses et de frites. Puis, elle se fit faire un soin complet du visage dans un salon de beauté et, rafraîchie et remaquillée, fit halte au bar du George Hotel pour s'offrir un double gin tonic avant d'aller se garer sur le parking situé juste en face du commissariat de manière à voir Bill en sortir. Il apparut enfin et elle l'appela. « Montez !» lui enjoignit-elle. « J'ai quelque chose à vous montrer. »«
Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué ? Regardez ça, je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres !»
dit Agatha avec aplomb. Elle avait soigneusement veillé à ne pas y laisser ses empreintes, car elle pensait qu'au commissariat, on avait peut-être celle de Jenny Harcourt dans les archives informatiques. Après tout, la vieille dame était kleptomane. Soudain, Agatha se demanda si c'était bien Jill qui avait caché le carnet dans le secrétaire ou Jenny qui l'avait chapardé.
« Vous pensez que c'est quoi tous ces chiffres ?» demanda Bill.
« Pour moi, ce sont les comptes de différents chantages, » répondit Agatha, « avec une initiale à côté de chaque paiement. »
Bill possédait ce sixième sens dont quelques excellents enquêteurs sont doués et eut tout à coup la certitude qu'Agatha n'avait pas du tout trouvé le carnet dans sa boîte aux lettres.
« Le mieux ce serait que vous veniez au commissariat avec moi pour faire une déposition, » dit-il.
« Vous m'avez dit la vérité ? Vous avez vraiment trouvé ça dans votre boîte aux lettres ?
Vous pensez que je vous mentirais ?
Oui.
Oh, Bill ! Wilkes va me tomber dessus à bras raccourcis et me tarabuster à n'en plus finir.
Il n'est pas de permanence ce soir. Venez. » Tout en prenant soigneusement note de la déposition d'Agatha, Bill sembla cesser d'être un ami pour redevenir un enquêteur efficace.
Quand exactement avait-elle trouvé le carnet? Pourquoi avait-elle tant attendu avant d'avertir la police?
Elle aurait dû téléphoner tout de suite. Exaspérée, Agatha protesta.
C'est à vous que je voulais en parler. Rien qu'à vous. Je n'avais pas envie que Wilkes m'accuse encore d'assassinat ou d'entrave à l'action de la police.
Enfin, le carnet fut glissé dans un sachet en plastique et elle fut libre de partir.
« On va prendre un verre ?» proposa Agatha.
« Non, » répondit Bill. « Je dois creuser cette affaire de chantage tout de suite et je suis désolée, mais il va falloir que j'appelle Wilkes chez lui. »«
Vous avez découvert qui m'a envoyé ce bouquet vénéneux ?»«
Oui. » Un des commerçants du marché m'a dit qu'il l'avait trouvé sur son étal avec un billet de 50 livres et un mot demandant qu'il vous le livre. Il n'a pas voulu s'absenter et il l'a donc remis au jeune Jamie Martin pour qu'il vous l'apporte à votre agence.
Réfléchissez une seconde à ce qui aurait pu se produire, Agatha. S'il n'avait pas été honnête, il aurait pu empocher l'argent et rapporter les fleurs chez lui pour les offrir à sa femme.
Quand Agatha se gara devant son cottage, James arriva en toute hâte.
« Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, » dit-il.
« Quoi ?»«
Je pense que Davant se fait faire artificiellement des reflets roux dans les cheveux et la fossette à son menton. Je parierais que c'est de la chirurgie esthétique. »«
Et alors ?» dit Agatha.
« Je viens bien de me faire un soin du visage. Pour un homme, c'est différent. Il est sûrement gay, Agatha. »«
S'il est gay, pourquoi crois-tu qu'il m'ait invité à dîner ?»«
Probablement pour te liquider, soc que tu es. »«
Oh, rentre chez toi et va te faire voir, espèce de raseur !»
James tourna les talons et repartit l'air courroucé. Agatha allait tourner la clé dans la serrure quand elle vit s'arrêter une voiture avec Bill et Wilkes à l'intérieur, suivie d'une autre avec une équipe de la scientifique. Naturellement, la police voulait examiner sa porte, espérant y trouver des empreintes digitales.
« Montez !» ordonna Wilkes. « Il faut laisser la scientifique faire son travail. »«
Pas question !» répondit Agatha.
« Je ne veux pas rester assise à étouffer dans une voiture. Si vous avez des questions à me poser, allons au pub. »
La soirée était chaude et moite, et ils s'assirent à une table dans le jardin du pub, à distance des autres consommateurs. Au grand soulagement d'Agatha, Wilkes se montra moins soupçonneux que Bill, mais tout en parlant, elle sentit les yeux en amande de celui-ci comme rivés à son visage, ses beaux yeux qu'il avait hérités de son père hongkongais. Bill Wong était le premier ami qu'elle s'était fait quand elle s'était installée dans les Cotswolds, et Agatha détestait lui mentir. L'enregistreur posé sur la table consignait tout ce qu'elle disait. Victoria Bannister observait le petit groupe par la fenêtre du pub. D'où elle était, il lui sembla qu'Agatha était traitée avec un grand respect, et elle sentit monter en elle la jalousie. En ce moment,
qu'Agatha lui ait promis de ne pas révéler son nom à la police comptait pour rien. Elle était consumée par l'envie. Elle avait surveillé le cabinet de Jill Davant, guettant ses clients et tentant, sans y parvenir, de rassembler assez de courage pour lui enjoindre de ne plus la faire chanter. Elle n'était sûrement pas la seule à qui Jill extorquait de l'argent, mais elle n'avait aucune envie de s'offrir aux griffes d'un assassin. Et elle ne faisait pas confiance à Agatha pour taire son nom bien longtemps. Victoria estima soudain qu'elle avait besoin de compagnie dans son malheur. Si elle suivait jusque chez elle la dernière personne susceptible d'avoir été la victime de la thérapeute, peut-être trouverait-elle de l'aide. Le lendemain, bien qu'elle soit très occupée et impatiente de se rendre à son rendez-vous avec Tris Davant, Agatha était nerveuse. Quelque part dans les parages, il y avait un meurtrier décidé à en finir avec elle. Sa première tentative avait échoué, mais il ne faisait guère de doute qu'il recommencerait. En temps normal, elle aurait passé une grande partie de la journée à se demander avec agitation ce qu'elle devait porter pour le dîner. Mais sa peur de l'assassin aux aguets la poussa à se concentrer sur son travail pour conjurer l'angoisse. Sa journée finie, elle monta dans sa voiture et en reculant, emboutit un réverbère. Elle redescendit en jurant, mais il n'y avait pas beaucoup de dégâts. Elle respira profondément, puis prit prudemment la route d'Ifcham, sans cesser de regarder dans son rétroviseur si personne ne la suivait. Un homme, au volant d'une BMW, sembla un moment l'avoir prise en filature. Et Agatha s'engagea dans un chemin vicinal pour laisser la grosse berline passer et s'éloigner. Soudain, l'envie la prit d'oublier son rendez-vous et de rentrer chez elle pour retrouver la sécurité de son cottage, bien protégée par les alarmes. Ses chats lui manquaient. Même s'il paraissait souvent en éprouver pour elle qu'indifférence, il y avait des moments où, sensible à son désarroi, il la suivait jusqu'à son lit et se recroquevillait contre elle. Et Charles, le déloyal Charles, où était-il? À cet instant même, Charles, qui avait fait un saut chez Agatha sans la trouver, frappait à la porte de James. Il lui demanda s'il savait où elle était passée. James se lança dans une diatribe sur le manque de moralité d'Agatha, qu'il conclut par ces mots « Je ne la crois pas une seconde quand elle me dit que ce n'est pas un rendez-vous galant et qu'elle n'y va que pour les besoins de son enquête. »
« Je pourrais essayer de vérifier, » dit Charles. « Il habite où, ce Davant ?»«
Il vaut mieux que vous commandiez pour moi, » dit Agatha après avoir parcouru le menu. « Je ne connais aucun de ces plats. » Tris fit signe à la serveuse et commanda deux vodkas. « Je ne boirai rien d'autre, » l'avertit Agatha. « Je ne veux pas être arrêtée pour conduite en état d'ivresse. »«
Quand vous aurez fini de manger, » dit Tris, « vous serez aussi sobre qu'un chameau. C'est le genre de nourriture qui éponge complètement l'alcool. »
En entrée, il commanda un épais potage aux champignons, suivi d'un bigos, décrit comme le ragoût du chasseur, une assiette débordant de toute une variété de viandes et de charcuteries, accompagnée de choux blancs fermentés, avec des baies de genièvre, comme pour la choucroute, et d'une pile de galettes de pommes de terre. Il voulait aussi qu'on leur serve de la bière, mais Agatha lui dit qu'elle n'aimait pas ça, et il se rabattit sur la vodka. Ils parlèrent à bâtons rompus de choses et d'autres, du déclin du centre-ville d'Ifcham et des causes de la désertification des rues commerçantes britanniques. Agatha se sentait quelque peu somnolente, sous l'effet du lourd repas et de plusieurs verres de vodka. Pourtant, quand Tris en commanda encore, elle ne protesta pas. Elle était lasse d'avoir peur, et c'était un homme séduisant. Impossible qu'il soit homosexuel. D'abord, il avait été marié à deux reprises, et elle fit taire dans sa tête la voix qui lui rappelait les noms des gays mariés qu'elle avait connus dans sa vie. De toute façon, quelle importance ! Elle n'avait pas l'intention de passer la nuit avec lui. Enfin, elle mit sur le tapis le sujet des meurtres et de la tentative dont elle avait été victime. Quand arriva le dessert, deux énormes tranches de cheesecake, Tris posa sa main sur la sienne. « Vous êtes une femme pleine de charme, Agatha. J'aimerais bien que vous laissiez tomber toute cette affaire. Pourquoi ?
Parce que c'est trop dangereux. S'il vous plaît, abandonnez. »
Il la regardait fixement, les yeux dans les yeux, et sa main se fit lourde sur la sienne. Il y avait dans sa voix une nuance très autoritaire. Agatha sentit se dissiper son euphorie de femme repue et alcoolisée. Elle tenta de retirer sa main, mais il la retint.
« Promettez-le-moi, » insista-t-il. « Je suis sûr que si vous vous obstinez, quelque chose d'affreux risque de vous arriver.
On a déjà essayé de vous empoisonner avec de l'aconite. »
Agatha retira sa main d'un geste farouche, avec tant de force qu'un verre voltigea de la table.
« Comment savez-vous que c'était de l'aconite ? » demanda-t-elle durement.
« La presse ne l'a pas précisé. »
« Ça tombe sous le sens, puisque c'est avec de l'aconite que Erise a été assassiné. »
Mais Jill Davant a été étranglée, et Clive Tremond assommé et noyé.
« Ne vous fâchez pas, suppliatrice. C'était une déduction logique, je... Bonsoir, ma chère. Est-ce que tu surveilles encore ta ligne ?»«
Oh, Charles !» dit Agatha. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»«
Je suis venue te chercher. La police veut de nouveau te parler, j'ai pensé que je pourrais te tenir la main. Et puis... « Il vaut peut-être mieux que ce soit moi qui te reconduise. Tu as ingurgité pas mal de vodka, pas vrai ?»
Agatha fit les présentations.
« Il vaut mieux que j'y aille, » dit-elle à Triss.
« Et nous nous revoyons quand ?»«
Je vous téléphonerai, » promit Agatha.
« Comment diable m'as-tu trouvé ?» demanda Agatha tandis qu'il marchait vers la voiture de Charles.
« C'est James qui m'a parlé de votre entretien avec Tristram Davant et connaissant ton penchant pour les hommes peu recommandables. » « Je me suis rendue à l'adresse qu'il m'a donnée et je suis tombée sur sa sœur, qui m'a dit où vous dîniez. Oublie ta voiture. Je ferai un saut pour la prendre demain matin. »
Quand Agatha eut pris place sur le siège du passager, Charles se tourna vers elle avec curiosité.
« Comment se fait-il que tu ne sois pas furieuse contre moi ? J'ai pourtant interrompu ton rendez-vous avec ton soupirant. »«
Roule !» répondit-elle. « Il doit traverser le parking pour rentrer chez lui et je ne veux pas le revoir. »
« D'accord. »
Charles démarra et tourna dans Port Street. « Je vais te le dire pourquoi je ne veux pas le revoir, » dit Agatha. Elle lui raconta ce qui s'était passé au restaurant.
« Mais ce n'est pas seulement ce qu'il m'a dit, » conclut-elle. « Je suis une boule de nerfs depuis qu'on a essayé de me tuer. Et honnêtement, il m'a fait peur. »«
Dans ce cas, pourquoi as-tu accepté ce dîner avec lui ?»«
Parce que hier, il ne m'avait pas fait cette impression. »
« Et puis parce que je suis détective, rappelle-toi !» s'écria Agatha.
« J'ai pensé qu'il pourrait me fournir d'autres informations utiles sur son ex-femme. »«
Dis la vérité, Aggie. Il t'a proposé un rendez-vous et tu as sauté sur l'occasion. Tu devrais être un peu plus exigeante. Un homme qui se fait faire des reflets dans les cheveux. »«
C'est peut-être naturel ?»«
Tu parles. »
Une larme roula sur la joue d'Agatha.
« Ramène-moi chez moi, va-t'en »
sanglota-t-elle. Charles s'arrêta sur le bas-côté et coupa le moteur.
« Excuse-moi, » dit-il, « je ne voulais pas te faire de peine. Ne pleure pas, voyons, je ne t'ai jamais vu si abattue. Courage, nous allons rentrer chez toi, boire un verre et regarder une bêtise à la télévision. Je sais que tu ne laisseras pas tomber. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?»
Agatha s'essuya les yeux et renifla bruyamment.
« Demain, je ferai la tournée des jardins de Carsley, parce qu'ils sont ouverts au public, » répondit-elle. « Je veux voir si quelqu'un fait pousser de l'aconite. »
« Si quelqu'un l'a fait, il l'a probablement déraciné à l'heure qu'il est. Mais ne t'en fais pas, je viendrai quand même avec toi. Tu es capable de reconnaître la plante ?»
J'ai observé des tas de photos sur Google. On l'appelle aussi casque de Jupiter et surtout Tulou. Et le nom du poison est l'aconitine.
« Bon, nous verrons ça demain. Mais je pense vraiment que tu devrais parler à Bill de ton dîner de ce soir. Je veux dire, ce type était menaçant, non ?»«
Je lui en toucherai peut-être un mot, » dit Agatha, tout en pressentant qu'elle ne supporterait pas de nouvelles questions sur les raisons qui l'avaient poussée à accepter cette soirée avec Davant. Elle avait à peine dépassé la cinquantaine, mais était-elle tombée assez bas, songea-t-elle, pour juger séduisant n'importe quel homme qui voulait bien l'inviter ?
Le lendemain, quand ils sortirent pour leur tournée des jardins du village, le soleil brillait. De grands nuages moutonnants, portés par une brise légère, flottaient comme des galions dans le vaste ciel bleu des Cotswolds.
« Les jardins ne sont sûrement pas tous ouverts au public, » remarqua Charles.
« Nous ferons comme si nous ne savions pas, » décida Agatha. « Mais j'espère que nous ne perdrons pas complètement notre temps. Après tout, il se pourrait aussi que Jill ait été suivie par quelqu'un qu'elle a mis très en colère à Chicago.
« Dans ce cas, » observa Charles, « après l'avoir tué, ce quelqu'un se serait dépêché de reprendre l'avion pour l'autre côté de l'Atlantique. Bien sûr, il y a aussi eu la mort de Tremond. Mais notre assassin a dû penser qu'il avait déterré quelque chose. Quant au meurtre de Erise et à la tentative contre toi,
Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? Tout ça porterait à croire que le tueur ou la tueuse se trouve beaucoup plus près de chez nous.
Commençons par le jardin de Victoria Bannister, dit Agatha. Cette bonne femme est complètement dérangée.
Son jardin est ouvert?
Je ne sais pas. Nous ferons comme s'il l'était. Ils cheminèrent dans les rues pavées du village, dépassant l'église et le presbytère, pour gagner le cottage de Victoria.
Il n'y a pas grand monde, remarqua Charles. C'est toujours aussi tranquille le jour de l'ouverture des jardins?
Probablement, répondit Agatha. Une fois, Mrs. Blugsby m'a dit que les gens de Carsley sont si jaloux les uns des autres qu'en début de journée au moins, ils se refusent souvent à visiter les jardins d'autrui. Puis, ils finissent par y aller quand même.
Tu n'as pas peur de te faire incendier par cette Victoria?
Oh non, c'est moi qui lui fais peur en la menaçant de la poursuivre pour diffamation.
Elle n'a pas accroché l'écriteau jardin ouvert à son portail,
observa Charles.
Et alors? Dit Agatha en le poussant.
Le petit jardin du cottage au toit de chaume regorgeait de fleurs multicolores. De grandes roses trémières tendaient leurs corolles vers le ciel d'été et des rosiers blancs grimpants entouraient la porte basse de la maison. Agatha s'arrêta brusquement sur le chemin et Charles ne put faire autrement que de la heurter.
« Regarde, lui murmura-t-elle, de l'aconite. Tu devrais réétudier tes photos, dit Charles. T'as seulement un delphinium.
Merde et merde. J'aurais dû y penser que c'était trop facile. » Agatha sonna à la porte.
« Elle doit être sortie, » dit-elle après qu'ils eurent attendu quelques instants.
« Mais allons voir le jardin de derrière. Si elle rentre et qu'elle nous prend sur le fait, nous pourrons toujours prétendre que nous avons cru son jardin ouvert aux visiteurs. » Mais quand ils eurent contourné le cottage, ce fut pour découvrir que Victoria ne cultivait de fleurs que devant chez elle. Derrière, il n'y avait qu'une pelouse à l'herbe rare et une corde à linge. Au bout, se dressait une remise et près du mur du fond, deux pommiers sauvages.
« Jetons un coup d'œil dans cette remise, » dit Agatha. « Elle pourrait nous surprendre, » objecta Charles.
« Ne fais pas ta mauviette, allons-y. »«
Pas moi, » dit fermement Charles. « Tu vois cette chaise de jardin près de la maison. Je vais m'y asseoir jusqu'à ce que tu aies fini de fureter. Et si je l'entends, je file. »«
Quel trouillard tu fais !» Agatha traversa la pelouse. Trois grands corbeaux qui avaient picoré quelque chose s'envolèrent à son approche. Au pied de la remise, ce qui ressemblait à première vue à un paquet de vêtements gisait sur le sol. Curieuse, Agatha s'avança. L'instant d'après, elle laissa échapper un cri aigu qui fit accourir Charles. Le visage de Victoria Bannister, un visage mort et sans yeux, semblait s'être tourné vers eux.
« Les corbeaux !»
balbutia Agatha.
« Ils lui ont mangé les yeux !»
Charles lui passa un bras autour des épaules.
« Viens, allons-nous-en, » dit-il. « Il faut appeler la police tout de suite, sinon nous serons accusés d'avoir souillé la scène de crime. »
Les policiers arrivèrent, et Agatha et Charles furent emmenés hors de la petite propriété pour attendre dans un de leurs véhicules pendant que le légiste et les hommes de la scientifique se mettaient au travail. Wilkes apparut à son tour et frappa à la vitre de la voiture où Agatha et Charles étaient assis.
« Nous allons nous rendre à votre cottage, Mrs. Raisin, » dit-il. Et nous y prendrons votre déposition.
Pourquoi fait-il un si beau soleil? Se demanda sombrement Agatha. Le temps devrait être hivernal et sinistre. Mais le village semble si normal. Encore ignorant du drame, quelques habitants avaient commencé d'entrer et de sortir des jardins. Chez elle, Agatha insista pour que tout le monde s'installe dans le sien, car elle pourrait y fumer à son aise. Wilkes était accompagné de Bill Wong, d'Alice Peterson et d'une autre policière.
J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas abandonné cette habitude dégoûtante, commenta Wilkes en voyant Agatha allumer une cigarette.
Une femme vient d'être trouvée morte, les yeux mangés par les corbeaux, répliqua Agatha.
Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est rouspéter parce que je fume! Finissons-en plutôt!
Le petit groupe s'assit autour de la table de jardin et les questions commencèrent. Quand on eut fini de la cuisiner sur Victoria Bannister, Agatha parla de son dîner avec Tristram Davant et déclara.
Franchement, il m'a fait peur. Je parierais que c'est lui le coupable. Attendez-moi un instant, dit Wilkes. J'ai un coup de fil à passer.
Il disparut dans la cuisine. Vous vous sentez bien, Agatha? Demanda Bill. Vous êtes toute pâle.
J'en tremble encore, répondit Agatha. C'était une vision vraiment horrible.
Wilkes revint.
D'après la température du foie,
La première estimation de l'heure de la mort est hier soir, probablement entre 7h et minuit, dit-il. Le coroner pourra se faire une idée plus précise quand le contenu de l'estomac aura été analysé. Mais ça ne peut pas être Davant. Son alibi, c'est vous, Mrs. Raisin.
Pas forcément, objecta Agatha, non sans obstination. Je suis partie du restaurant vers 9h30. Il avait le temps de faire le trajet jusqu'à Carsley pour la liquider.
C'est hautement improbable, maugréa Wilkes avec aigreur. Maintenant, à votre tour, Sir Charles Fraisse. Donnez-nous votre version des faits.
Agatha envia le sang-froid avec lequel Charles répondit. Il parla comme si la découverte d'un cadavre au visage hideusement mutilé était un incident ordinaire. La veille au soir, elle avait été à deux doigts de le rejoindre dans son lit et s'était arrêtée juste à temps, se rappelant qu'elle avait décidé de bannir de sa vie le sexe occasionnel. Mais elle avait besoin que quelqu'un la tienne dans ses bras et la réconforte. Pour autant, ni James ni Charles n'étaient à proprement parler des hommes affectueux, songea-t-elle avec mélancolie. Comme amant, James était plutôt du genre « crac-crac, merci madame ». Charles, pour sa part, savait se montrer plus expert, mais quand l'affaire était finie, il restait tout aussi énigmatique et ne trahissait rien de ce qu'il pensait vraiment d'elle. Elle ferma les paupières pour protéger ses yeux de l'éblouissement du soleil et se laissa aller à rêver d'un homme solide et fiable. Il aurait le visage tanné et porterait du bon vieux tweed. Il s'activerait au jardin et les soirs d'hiver, ils s'assieraient ensemble près du feu. Au lit, il serait à la fois tendre et passionné. Et il
« Te voilà toute rouge, Aggie !» lui dit Charles.
« C'est à cause du soleil !» répliqua précipitamment Agatha en rouvrant les yeux et en fixant son ami, qui était comme toujours rasé de près et superbement habillé. On sonna à la porte.
« J'y vais !» dit Alice. Quand elle revint, elle était suivie de Tony, de Simon et de James.
« James nous a téléphoné !» expliqua Tony. « Quelle horreur, Agatha ! Vous vous sentez comment ?»«
Je survis !» répondit Agatha. « Mais il vaut mieux que nous rentrions. Il n'y a pas assez de place autour de cette table. » « Nous partons, » dit Wilkes. « Passez au commissariat plus tard dans la journée pour signer vos dépositions. Et pas un mot à la presse !»
James, Simon et Tony prirent place sur les chaises de jardin laissées libres par les policiers et voulurent en savoir plus sur ce qui s'était passé. James signala que la nouvelle de la mort de Victoria Bannister avait déjà fait le tour du village par la faute d'un agent en faction qui avait bavardé avec les passants. Avec lassitude, Agatha narra de nouveau les derniers événements sans omettre son dîner de la veille avec Tristram Davant. Elle venait d'achever son récit quand de furieux coups de sonnette retentirent à la porte.
« Je vais voir, » dit Tony.
« Regardez par l'œilleton, et si ce sont des journalistes, n'ouvrez pas !» lui recommanda Agatha. Quand Tony revint, elle annonça lugubrement.
« Si vous vous demandez pourquoi on ne sonne plus, Agatha, c'est parce que votre copain Roy Silver est planté sur le seuil et qu'il tient une espèce de conférence de presse. »
Agatha poussa un grognement. « James, » dit-elle, « veux-tu être un amour et ramener Manu Militari, cet idiot, ici ?» Autrefois, quand Agatha dirigeait son agence de relations publiques à Londres, le jeune homme avait travaillé pour elle. James revint, suivi d'un Roy, arborant un air soumis. À la grande horreur d'Agatha, il semblait avoir littéralement tout le corps couvert de tatouages.
« Quelle mouche t'a piqué de te faire massacrer comme ça ?» demanda-t-elle. « Tu te rends compte que quand la mode sera passée, tu écoperas d'une énorme facture de chirurgie esthétique pour faire effacer ces saletés ?»
Tout le monde fixa des yeux la grande araignée qui ornait le cou de Roy et les dragons torsadés et multicolores le long de ses bras.
« Ce ne sont pas des vrais, ils se lavent !» répliqua Roy d'un ton boudeur. « C'est ça qui est chouette !»
Depuis quelque temps, je m'occupe des relations publiques d'un groupe de rock qui s'appelle Hell on Earth. Vous connaissez ? Des mecs qui vont cartonner !
Qu'est-ce que tu as raconté à la presse ? La police m'a donné l'ordre de ne faire aucune déclaration aux journalistes.
Seulement la vérité ? Répondit Roy avec humeur.
J'ai dit que je t'avais aidé à résoudre d'autres affaires et que je faisais la même chose cette fois-ci.
Mais comment es-tu au courant pour celle-ci ? Demanda Tony.
Je ne l'étais pas, mais les journalistes m'ont dit qu'il y avait eu un assassinat dans le patelin, alors j'ai rempli les blancs.
Agatha observa avec amertume le visage chafouin de Roy, ses cheveux raidis par le gel et son jean artistement déchiré au genou. Et lui lança « Tu as l'air de sortir d'une maison de redressement.
Monte à la salle de bain et lave-moi tout de suite ces barbouillages, sinon fiche-moi le camp. »
C'est le problème avec toi, depuis que tu es venu t'enterrer au milieu des ploucs, dit Roy. Tu n'es plus dans le coup pour rien. Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais.
Quant à Simon et moi, puisque nous sommes ici, dit Tony, je pense que nous devrions faire le tour des jardins pour voir si nous repérons cette satanée plante toxique quelque part. Nous pouvons partir chacun de notre côté et allez-y plutôt ensemble, dit Agatha. Je n'ai pas envie que l'un de vous se fasse tuer.